J'aimerais remercier John pour son accueil, même s'il n'est pas là ce matin. J'ai le plaisir donc de travailler un petit peu avec lui et Flavius, Elisa et d'autres pour le concert du mois de décembre de l'année dernière. Et j'ai failli être récompensé par Flavius lorsqu'il est venu m'aider avec un concert au mois d'avril. Mais malheureusement, dernièrement, il est venu pour aider avec la dernière répétition, pour me montrer ce qui n'allait pas. Et puis il est reparti, et puis ça a très bien marché. Le samedi, lorsque, après, on avait 430 personnes, je pense qu'il y avait peut-être une ou deux personnes qui sont venues d'ici, donc avec Michael Carr de Vevey. Et ce que je retiens de ce concert, ce n'est pas simplement que musicalement tout s'est bien passé, mais le message fort qui est ressorti de ce concert, d'un Dieu réel qui a également passé par la souffrance dans la personne de Jésus à la Pâque. Et je continue à entendre des échos de ce concert, et c'est justement ces vérités qui ressortent, en plus bien sûr d'un bon concert. Et on remercie le Seigneur pour cela. Je ne sais pas si vous regardez beaucoup les infos. Et en regardant les infos, est-ce que vous écoutez parfois les questions que les journalistes posent à ceux qui sont en train d'interviewer? C'est un travail difficile. En Irlande du Nord, d'où je viens, il y avait un certain politicien, un homme politique, donc, qui était très très difficile à interviewer, parce qu'il n'était jamais d'accord avec la question. Et il mettait toujours donc en question la question, et il y avait pas mal de journalistes qui ont évité de l'interviewer, et pourtant c'était un des hommes politiques les plus importants en Irlande du Nord. Peut-être vous l'avez vu récemment, c'est le monsieur donc Paisley qui, à l'âge de 84, attendez, on est en Suisse, 84 ans, a pris la retraite juste là récemment. Donc ça ne doit pas être très facile. Il y a sur la BBC une série d'entretiens qui s'appelle 5 minutes contre la montre, où le journaliste donc demande à l'invité de mettre le chronomètre, une petite pendule, et voilà, c'est parti pour 5 minutes avec des questions les unes après les autres, sans pause, et voilà, la personne donc est obligée un petit peu de répondre à toutes ces questions qui viennent à droite et à gauche. Alors, si vous étiez journaliste et si vous aviez 5 minutes avec quelqu'un d'important, par exemple le président américain, qu'est-ce que vous lui demanderez? Si l'interview n'était pas obligée d'être enregistrée. Ou si c'était avec votre chanteur préféré, votre auteur préféré. Quelle question est-ce que vous garderez pour un entretien tellement privilégié? Lorsque j'étais étudiant, j'ai parlé tout à l'heure du GBU, lorsque j'étais étudiant donc à la fac en Irlande du Nord, on a fait une campagne d'évangélisation, et pendant cette campagne d'évangélisation, j'ai fait partie d'une table ronde qu'on a appelée « Venez griller un chrétien ». Alors, je ne sais pas si ça s'est traduit tout à fait comme ça, « Come and grill a Christian ». On pouvait poser n'importe quelle question à la table ronde, et nous, les jeunes derrière, jeunes chrétiens, on était censés pouvoir répondre. Il y a quelques semaines en Irlande du Nord, il y a un mois, j'étais là pour un week-end, j'ai chanté avec une chorale dont je fais partie depuis 6 ou 7 ans. C'était dans le cadre justement d'une grande campagne d'évangélisation qu'une église presbytérienne avait faite dans leur ville. Et ils ont fait quelque chose d'intéressant, ils sont allés dans la rue poser cette question à toutes les personnes qu'ils ont rencontrées. Si vous pourriez poser n'importe quelle question à Dieu, qu'est-ce que ça serait? Et le défi pour le prédicateur, le dimanche suivant, donc le soir où j'étais là, c'était de répondre à la question qui avait reçu le plus de votes. Alors je ne sais pas si vous pouvez déjà penser ou anticiper à peu près où ça va aller. La question donc qui avait reçu le plus de votes, c'était quelque chose comme celle-ci. Pourquoi y a-t-il tant de souffrances dans le monde, et surtout la souffrance des innocents, et en particulier des enfants innocents? J'étais heureux de ne pas être le prédicateur ce soir-là, Je trouve qu'il a fait un très bon travail. Mais voilà, la question qui avait reçu le plus de votes. Alors, bien sûr, derrière cette question, on peut se dire, les personnes qui l'ont posée, est-ce qu'ils s'intéressent à Dieu? Est-ce qu'ils ont pris le temps de lire ce que lui a à dire? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire, ah ben voilà, je vais vous poser une question suffisamment difficile pour me justifier pourquoi je ne suis pas religieux, ou pourquoi je ne veux pas aller dans le sens de croire dans un Dieu qui permet autant de souffrances? Alors ça, c'est une question. Mais si nous, en tant que donc, chrétiens, nés de nouveau, qui quand même marchent avec le Seigneur, si on avait le droit de lui poser des questions, quel genre de questions est-ce qu'on lui poserait? Pourquoi une personne soit guérie et une autre pas? Pourquoi le travail d'une personne semble aller bien alors que l'autre est au chômage, alors que tous les deux sont chrétiens? Pourquoi la situation familiale semble être facile pour l'un, mais pas pour moi? Pourquoi celui-ci ne semble pas avoir des soucis financiers alors que moi je lutte avec tous les mois, tous les fins du mois? Il y a parfois des questions sans réponse, en tout cas sans réponse claire. Dans nos milieux évangéliques, on a tendance à mettre beaucoup d'accent sur la conversion et la joie du salut. Mais une fois converti, comment savoir réagir si Dieu ne répond pas la manière que j'attends de sa part? Dans la Bible, on trouve des personnes qui ont posé des questions difficiles à Dieu. On les appelle des chants dans les psaumes. Et là, on trouve des questions telles que « Jusqu'à quand ? Pourquoi ?» Et s'il s'agit des chants, ce sera plutôt des chants, je pense, plus faciles à chanter en tonalité mineure. On se sent fort et on préfère chanter en majeur. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de hymnes nationaux en mineur. Une exception, c'est Israël, ce qui est intéressant. De la même manière qu'un enfant apprend à dire merci et je suis désolé, au secours, les psaumes représentent un porte-parole dans les contextes émotionnels différents, parfois difficiles. Quelque part, c'est soulageant, c'est encourageant de savoir que, aussi dans la Bible, on pose des questions difficiles à Dieu, que David et d'autres psalmistes se trouvaient dans des situations suffisamment difficiles pour ne pas voir si Dieu était près, si Dieu était proche. Un commentateur, John Whitfield, de l'Institut Calvin aux États-Unis, l'Institut Calvin sur la louange et l'adoration, a dit « Les psaumes sont des mots comme des blocs de construction, des relations saines. » La gamme entière de l'émotion humaine trouve son écho dans les psaumes. On a du regret abattu dans le psaume 88, la joie extatique en psaume 47, de la culpabilité en psaume 51, à la reconnaissance profonde dans le psaume 136. Les psaumes ne nous enseignent pas simplement des choses sur Dieu, mais nous aident à vivre notre relation avec Dieu. On a besoin parfois de prendre de ces psaumes et les utiliser pour nous-mêmes, pour parler à Dieu. Ce sont des paroles déjà faites, prêtes à entrer directement dans notre bouche. Ce commentateur dit, elles nous amènent à une rencontre réelle avec Dieu parce que c'est par ces paroles nous nous trouvons parler avec le Dieu vivant, parfois dans un langage que nous n'aurions jamais imaginé pourrait sortir de notre bouche vers Dieu. Calvin parlait des psaumes, les a appelés l'anatomie de l'âme. L'anatomie de l'âme. Et Michael Card, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait le concert avec nous au mois d'avril, un compositeur et chanteur, a dit ceci, c'est par les psaumes de lamentation de David Plus qu'ailleurs dans l'Écriture, David révèle un Dieu qui se sert de tout, surtout la douleur. Écoutons un extrait de ce livre que nous aimons tous. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira qu'il a gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. C'est la parole de Psaume 13 que je vous invite maintenant à regarder. Je viens de le lire. Je peux peut-être le relire avec vous, le psaume 13, intitulé au chef de cœur, un psaume de David. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel, mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira qu'il a gagné et mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Jusqu'à quand? On ne sait pas tout à fait de quoi il s'agit, le jusqu'à quand de David. Avait-il passé des jours, des semaines, des années à lutter avec un certain problème? On pourrait dire oui, en tout cas pendant une certaine période assez longue, ou qui lui paraît assez longue. M'oublieras-tu sans cesse? C'est pas, on dirait, c'est pas le même psalmiste de psaume 23 où l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et pourtant si. M'oublieras-tu sans cesse? Comme si Dieu était la source de son désespoir. Dieu est trop loin. Il s'est caché et David se sent isolé. Où se trouvent les bénédictions d'autrefois, de protection, de grâce, de paix? Dieu semble garder ses distances. On cherche parfois dans notre lecture, dans notre propre lecture de la Bible, une petite parole pour nous faire du bien, qui chauffe le cœur. Alors, est-ce que marcher avec Dieu sur le long terme, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on grandisse avec lui aussi? Est-ce qu'il y a des moments dans la vie où il ne semble pas être si proche? Chez David, il y a la prière de ne pas être abandonné. Ce qu'on trouve aussi dans d'autres psaumes. Il y a beaucoup de psaumes, ce qu'on appelle les psaumes de lamentation. Psaume 27, verset 9. « Ne te détourne pas de moi. Ne repousse pas ton serviteur avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur. » Ou encore dans le psaume 30, Verset 8, tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. Un commentateur qui s'appelle Brueggemann a parlé des psaumes d'orientation. Ceux qui démontrent la vie sans menace et parfaitement ordonnée par Dieu. Les hymnes de la création, par exemple, dans le psaume 19. Les psaumes didactiques, psaume 34. Les hymnes de rétribution, dans psaume 105. Mais il les appelle aussi, certains psaumes, les psaumes de désorientation. Ceux où le monde n'est pas en paix. Des psaumes qui saisissent les hauts et les bas auxquels l'humanité fait face et la désorientation que nous pouvons ressentir dans la vie quotidienne. Il inclut dans ce groupe des psaumes de lamentation personnelle, mais aussi commune, nationale. Ce qui est encourageant, c'est qu'il est rare que le psalmiste ait resté dans cet état parce que Dieu lui a donné le sens d'une nouvelle orientation. Le psaume 60, on ne va pas prendre le temps pour le lire, mais le psaume 60 est un exemple de lamentation commune qui parle de la question de l'abandon divin d'une nation entière. L'Église primitive se servait de des psaumes. Dans certains milieux, ils ont chanté tous les psaumes sur une certaine période, comme leur liturgie. Liturgie, ça veut simplement dire l'œuvre du peuple, ce qu'ils ont en dit, ce qu'ils ont fait dans leur culte. Il est vrai qu'avoir une vie sain et sauf avec le Christ, c'est ce qu'on aimerait bien avoir. Mais qu'est-ce que suivre Jésus veut dire si je suis chrétien et que j'habite le Corée du Nord? Nous disons souvent que Dieu est fidèle. Qu'est-ce que cela veut dire suivre Jésus dans les circonstances tellement adverses, tellement difficiles? Qu'est-ce que ça voulait dire pour des personnes comme Jérémie, comme Job, de suivre le plan de Dieu? Comme sur le plan humain, si on posait la question, si on disait « je vais aller chercher du pain », ça veut dire quelque chose dans les banlieues de Genève, et ça veut dire autre chose si c'est au Burkina, dans un petit village. Alors qu'est-ce que moi je peux apprendre dans ces moments difficiles? David s'était posé la question, jusqu'à quand dois-je avoir des soucis? Laisse-moi tranquille, donne-moi un peu de joie quand même dans la vie. Jésus avait dit dans Jean 16, verset 33, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, j'ai vaincu le monde. David a dit qu'il avait des chagrins au cœur. Quelle définition pour les chagrins? Et puis à longueur de journée, comme si il devait aussi faire face à la situation de Job, où Job a dû, en tout cas d'après ce qu'on voit dans le livre, c'est juste à la fin qu'il y a de l'apaisement, qu'il y a du soulagement pour Job. Nous, on aimerait bien toujours donner des solutions faites, toutes faites. J'avais le privilège de rencontrer une famille alsacienne, un peu particulière. Le couple que j'ai rencontré, à ce moment-là, avait 93 ans, 93. Lui, il avait été donc suivi pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'en Alsace, il témoignait de sa foi, et beaucoup de personnes se sont converties. Et puis, conséquence, ils n'ont plus voulu suivre les indications donc de l'envahisseur nazi. Et il s'est trouvé plusieurs fois devant les tribunaux, etc. Il a dit à mon père, lorsque les choses vont bien, c'est là qu'il faut faire attention. Comme si, lorsque tout marche sur les roulettes, là, un tout petit peu à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure dans le témoignage que j'ai essayé de donner, lorsque tout marche bien, parfois, sans le savoir, on peut aller comme si on n'a pas vraiment besoin de Dieu. lorsque ça va pas, c'est là on s'en rend compte que on n'est rien sans Dieu, que tout dépend de lui. Et que nous avons besoin de puiser notre force en lui et en lui uniquement. Jusqu'à quand? Pourquoi le peuple d'Israël a dû marcher pendant 40 ans dans le désert? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu apprendre une petite leçon de la part de Dieu, on va dire, et 3 mois? Ça aurait été plus facile pour eux. Ou 1 an, peut-être. Mais 40 ans? Et puis Moïse, le chef du peuple, qui avait traversé la mer Rouge, qui a pu quand même aller au-delà de ses sentiments nerveux du Exode 3, où il se demandait, mais si je vais aller, Dieu, qu'est-ce que je vais t'appeler, qu'est-ce que je vais dire aux personnes? Et puis, de toute façon, moi, je n'arrive pas à parler, pourquoi pas mon frère pourrait le faire? Et pourtant, Dieu avait beaucoup travaillé dans sa vie, puis il a eu 40 ans après d'expérience à pouvoir en parler. Et pourtant, ce serviteur de Dieu, il n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause d'une seule erreur. Pourquoi Noé, qui quand même devait avoir beaucoup de foi, pourquoi a-t-il dû attendre 150 ans pour voir la raison pour ses préparations? Pourquoi Martin Luther King n'a-t-il pas vu l'arrivée d'un noir à la tête de son pays alors qu'il avait tout combattu pour l'égalité des races et des peuples? Pour certains, des problèmes lourds, c'est des soucis de maladie. J'ai parlé de ma famille tout à l'heure. Mon père, qui a travaillé donc pendant 40 ans dans une mission, dès qu'il a pris la retraite, n'a pas cessé d'avoir des problèmes de santé les uns après les autres. Des maux de dos, ensuite intervention cardiaque, remplacement de hanche, un cancer, le Parkinson, qui est un peu le plus lourd en ce moment. Les reins, maintenant c'est l'œil là, qu'il a perdu. Pourquoi? Est-ce que tu vas répondre Dieu à ce pourquoi? Le psaume 13, David a un problème supplémentaire. Quelqu'un lui veut la vie. Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? C'était qui? Son fils? Un autre chef de son armée? Saül? Le psalmiste est dérangé dans son être intérieur par le manque d'intérêt apparent de la part de Dieu. Il est également dérangé par ses adversaires. Il est dérangé par ses propres sentiments. Pour vous, ça pourrait être un patron, un voisin, un ami, quelqu'un dans la famille, une maladie. Et il semble que quelqu'un veut qu'on reste toujours vaincu, déçu, concentré sur les circonstances, désespéré. Et on se demande pourquoi Dieu n'intervient pas. Mais il y a parfois des périodes de silence. Philippe Yancy en parle dans son livre « Le Dieu invisible », où il évoque le cas de certaines personnes qui, où Dieu semble garder ses distances dans certaines époques de la vie. Jérémie, dans Lamentation 3, a dit, en parlant de Dieu, « Il m'a fait habiter dans les lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec des nampierres. Il rend ma route impraticable. » David s'est tourné à la prière, quand même. Dieu, regarde, réponds, viens. Regarde, Éternel. quel nom de pouvoir utiliser la révélation faite à Moïse d'un Dieu de l'alliance qui est, qui était et qui sera pour toujours. Réponds Dieu, réponds Éternel, pourquoi le silence? Dieu, si tu es là, si uniquement Dieu pouvait me parler et m'éclairer ma situation, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Peut-être vous avez lu cette histoire ou entendu parler. Une nuit, un homme fit un rêve et revint qu'il marchait sur le sable en compagnie de Dieu. Les images de sa vie défilaient dans le ciel. À chaque image, il y avait des empreintes de pas dans le sable. Deux lui appartenaient et deux appartenaient au Seigneur. Quand les dernières images se sont déroulées devant lui, l'homme s'est retourné et regarda les empreintes laissées derrière eux. Il remarqua alors que de nombreuses fois, au cours du chemin de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes sur le sable, et que c'était précisément au moment les plus tristes et les plus pénibles de sa vie. Il en fut profondément troublé et demanda au Seigneur, « Seigneur, tu m'avais dit que si nous marchions sur le même chemin, tu resterais toujours à mes côtés. Mais je constate que pendant les moments les plus pénibles et les plus difficiles de ma vie, je marchais seul, car il n'y a qu'une seule paire d'empreintes sur le sable. Je ne comprends pas pourquoi tu n'étais pas là quand j'en avais le plus besoin. » Le Seigneur lui répondit, « Mon très cher enfant, je t'aime. Et je ne t'ai jamais laissé seul quand tu as eu le plus besoin de moi. Lorsque tu ne vois qu'une seule paire d'empreintes sur le sable, c'est parce que je te porte dans mes bras. » On ne le voit pas au moment. On n'a pas la réponse immédiate à notre pourquoi. Cette semaine dernière, j'étais de nouveau à Emmaüs, à l'Institut biblique, où on regardait l'épître d'un Pierre. Pierre qui a écrit à des chrétiens qui étaient dans une persécution. Et Pierre leur a parlé de leur héritage, l'héritage du salut, le fait que Jésus est mort à leur place, qu'il est ressuscité, qu'il leur a donné la vie éternelle, et que même dans les diverses épreuves par lesquelles ils étaient forcés de passer, Dieu garder cet héritage pour eux, là où leurs persécuteurs ne pouvaient pas aller. Quelque chose que leurs persécuteurs ne pouvaient pas toucher. Mais Pierre a dit, puisqu'il le faut pour un peu de temps, vous devez passer par diverses épreuves. Mettre à l'épreuve comme l'or qui passe au feu pour être purifié. Le psalmiste, en priant, dit, viens réparer mes forces. Ou notre traduction dit, éclaire mon chemin, enlève le voile. Sans force, on a rendu l'esprit positif. Je m'endors dans la mort. Et mon ennemi dira qu'il a gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. La joie des oppresseurs ne serait vu pas simplement dans la chute du serviteur de Dieu, mais également dans l'échec apparent de Dieu de ne pas avoir été fidèle envers ses promesses de l'Alliance. Dieu doit intervenir pour protéger son honneur, dit David. Pendant des années, il y a eu des persécutions de chrétiens en Chine et ailleurs. Et pourtant, c'est dans de tels endroits que l'Église a parfois vu une croissance remarquable. J'ai pensé cette semaine à Richard Wurmbrand, donc un Romain que j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer lorsque j'étais petit, parce qu'il voyageait pas mal au Royaume-Uni et en Irlande. Et là, j'ai un petit livret qui parle de donc ces sermons qui ont été écrits lorsqu'il se trouvait en cellule, toute seule, pendant des années. Mes oppresseurs disent, dit Owen Brand, il n'y a pas de Dieu. Les communistes aussi nous le disent, que si on renie Dieu, alors on peut être libéré. Je me demande si je ne devrais pas le faire. La foi de certains chrétiens autour de moi a été détruite par le poids de la souffrance. Je crois en Dieu. Mon oppresseur communiste ne croit pas, c'est tout. Il est mon persécuteur, moi je ne le suis pas. J'ai mes péchés, lui il les a pas. Peut-être mes péchés sont encore plus graves que les siens. Paul s'est considéré comme le chef de pécheurs et je le crois lorsqu'il le dit, comme je le crois dans pas mal d'autres choses. Probablement les frères qui me regardent me voient comme un martyr. Ils pensent à mes messages et mes sermons qu'ils m'ont entendu prêcher. Ils ont lu certains de mes livres. Ils ont eu de conversations positives avec moi. Mais ils ne me connaissent pas. Je me connais mieux que mes tortureurs. Si les communistes voient en Dieu simplement un mot, une parole, et que moi, je ne crois pas dans cette parole, dans ce mot non plus, pourquoi pas nier Dieu? Comme ça, je serai libre. J'aurai le droit de le faire. Mais si je le faisais, qu'est-ce que cela ferait? Quelle en sera la conséquence pour mes oppresseurs? S'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu, quel serait le but de leur vie? Si je renie Dieu, je cause à mon tortureur de perdre l'occasion pour se développer. Je lui laisserai aucun but dans la vie et je le ferai perdre son âme avec tout le potentiel qu'il y a dans cette vie. Non, je ne vais pas le nier. Je ne sais pas où il est. Lorsque on me torture à fond sans cesse, je n'ai pas de preuve qu'il existe. Mais je crois qu'il est amour. Même si dans ce moment-ci, je ne ressens rien de cet amour. Je dois croire dans l'expression de cet amour, dans ce sacrifice qu'il a fait pour moi il y a 2000 ans. Je ne vais pas l'abandonner, ni le nier, même s'il m'abandonne. Jérémie, dans les Lamentations 3, plus loin, a dit « Le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours, mais s'il l'afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. » Souvent dans ces psaumes de lamentation, il y a le souvenir que Dieu était bon dans le passé. Il y a le souvenir d'une délivrance particulière où Dieu était présent, comme la protection en Égypte, à la mer Rouge, la colonne du feu dans le désert. Parfois le psalmiste veut rappeler au Seigneur sa bonté dans le passé. Souviens-toi. David n'était pas le seul à écrire des psaumes, il y avait Moïse aussi. Dans le psaume 90, versets 1 à 2, il dit « Au Seigneur d'âge en âge, tu as été notre refuge, avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité et pour l'éternité, toi tu es Dieu. » J'aimerais lire avec vous quelques versets dans Exode. Chapitre 33 et versets 11 à 14. Moïse, qui avait passé un certain temps avec Dieu sur la montagne, se retrouve face à une situation où Dieu veut punir son peuple parce que par leur manque de patience, ils ont fabriqué un veau d'or. On connaît un petit peu l'histoire. Au verset 11 du chapitre 33 de l'Exode, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force ?» C'est toi qui agis dans le passé, Dieu, est-ce que tu ne te souviens pas? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays ?» C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère. Reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham. Seigneur, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui es allé à sa rencontre. D'Isaac, tu lui as donné aussi des promesses. Et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Tu les as fait sortir d'Égypte. Par la grande puissance et par une main forte, un encouragement de regarder la fidélité de Dieu dans le passé pour le peuple. Dieu leur avait dit, en leur donnant les 10 commandements au début de ce fameux chapitre 20 d'Exode, parfois on passe assez rapidement au-dessus parce qu'on veut lire les 10 commandements, mais au début de ce chapitre 20, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et parce que je l'ai fait, voilà, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. » Moïse pouvait se rappeler du moment où il avait interrogé l'Éternel au chapitre 3, et Dieu avait répondu, « Je suis celui qui est, qui était, qui sera pour toujours. » Un peu un écho de ce que Moïse écrit dans le psaume 90, « Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. » Parfois, il faut éviter de nous dépendre de nos expériences. Mais il est bien de nous rappeler que Dieu a été fidèle dans le passé. Moïse s'est interrogé sur le témoignage de Dieu devant l'ennemi. Pourquoi l'ennemi dirait-il que Dieu s'est moqué de son peuple? Cela n'a pas de sens. Le verrait-il comme un Dieu dur qui punit son peuple pour son propre désir? Le peuple s'était beaucoup interrogé sur la puissance de Dieu, déjà devant la mer Rouge, parce qu'il ne voyait pas d'issue, devant le Pharaon, pour la nourriture dans le désert, pour l'eau. Et chaque fois, Dieu était intervenu. Tant d'occasions où l'ennemi aurait pu dire que Dieu les avait abandonnés, pourquoi maintenant ferais-tu cela, Dieu ? Dit Moïse. La gloire de Dieu est en jeu. Souviens-toi. Moïse, en parlant de manière très réaliste avec Dieu, le rappelle qu'il avait fait des promesses. Si tu es qui tu as dit que tu es, alors Dieu intervient. Souviens-toi de tes serviteurs. Abraham qui était appelé ami de Dieu. D'Isaac, d'Israël. Souviens-toi de ton serment, du fait que c'est toi qui as fait l'alliance avec ton peuple. Du contenu de cette alliance, de multiplier ta descendance, de leur donner un pays, un héritage pour toujours. Cette promesse, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Pour les Juifs, Dieu n'était pas un être statique ou passif, mais une personne vivante et dynamique qui répond aux besoins et aux actions des êtres humains. Abraham avait aussi posé des questions à Dieu dans Genèse 18-23 devant Sodome et Gomorre. « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ?» Pour revenir à notre psaume 13, le dernier verset, il y a des mots comme confiance, comme joie, comme remplir, un vocabulaire extravagant dans ses remerciements. Il est dans la joie, il veut chanter. C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les versets 1 à 5 et puis tout d'un coup, ce verset 6 ? Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Dieu est distant. David est désespéré. Il rappelle à Dieu qu'il est fidèle. En tout cas, c'est ce qu'il était dans le passé. Et puis tout d'un coup, dans le verset 6, il est prêt à chanter. Est-ce qu'il y avait une nuit de réflexion? Est-ce que Dieu s'est montré fidèle d'une façon très pratique dans la vie de David? Malgré le désespoir profond de son âme, le psalmiste ne laisse pas tout tomber. Il s'accroche aux promesses de Dieu. Même après sa dépression profonde, il dit « j'ai confiance ». Avec cette confiance, il dit « mon cœur se réjouisse, laisse-moi chanter ». Il connaît la délivrance d'où éclate ce chant de louange. Il est parfois difficile de chanter des chants de louange dans la profondeur du désespoir. Et nous qui avons parfois le privilège, mais aussi la responsabilité de choisir des chants, on n'est pas obligé de dire, on est dans la joie, n'est-ce pas, ce matin, chez frères et sœurs, alors qu'on vient de passer par la porte. Pour pas mal de personnes, il n'est pas dans la joie. On est justement venu pour le trouver. Et parfois, au lieu de penser à ce qui est ma réponse à Dieu avant qu'il me parle, j'ai besoin d'entendre de nouveau du fait qu'il est fidèle, ce qu'il a fait pour moi, à la croix, qu'il est ressuscité. L'effet de l'amour de Dieu rend la joie au psalmiste. Le salut, c'est pour le bien-être entier de l'enfant de Dieu. Il a besoin de savoir que Dieu s'intéresse à lui suffisamment pour intervenir, pour connaître la victoire face à l'ennemi et face à ses circonstances adverses. Il a également besoin de la guérison dans ses pensées d'inquiétude et d'apitoiement sur lui-même. Il s'est réjoui parce que de nouveau Dieu est proche. De nouveau, Dieu lui montre sa bonté. L'Éternel, il dit, me comble de ses bienfaits. Pas simplement le soulage, mais lui donne l'expérience d'une délivrance complète et libératrice. On ne sait pas si David vraiment connaissait la délivrance à ce moment-là, mais en tout cas, Dieu lui avait ôté le poids du désespoir. Il lui a donné quelque chose de profond. Parfois, on a besoin de nous parler à nous-mêmes, à lire la parole pour qu'elle puisse nous parler, à lire les promesses de Dieu, pour en quelque sorte dire « Dieu est fidèle ». Il a été fidèle dans le passé. Écoute ceci. Le psalmiste, dans le psaume 116, verset 7, a dit « Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. » Dieu est donc fidèle. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Je pense que même lorsque Jésus a crié sur la croix « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je pense que quand même Dieu était là, en tout cas pas trop loin. Mais dans ces moments les plus difficiles de la vie de Jésus, il se sentait abandonné. J'ai lu une histoire d'un petit garçon en Arménie en 1998. Samuel, le papa, et Armand, le fils de 4 ans, partent à l'école. Ce jour-là, il y a un tremblement de terre. Le père a repéré la salle de classe et a commencé à enlever des pierres contre l'avis des services de secours. Un jour entier, une nuit entière, et un jour plus tard, il a entendu un petit cri. Son fils a dit, « Oui, papa, j'ai dit à mes camarades que tu allais venir parce que tu as dit que tu es toujours là lorsque je sors de l'école. » Ils étaient 13 à être retrouvés. Quelle confiance dans un père qui avait été là, tout simplement à la sortie de l'école tous les jours. Parfois, nous avons besoin de nous rappeler de la bonté de Dieu dans le passé pour nous aider à affronter les moments de silence dans le présent. Et pourtant, comme le psalmiste, nous pouvons avoir confiance en ce Dieu qui ne peut pas se renier. Un Dieu qui a promis à être fidèle à nos côtés. Oui, il attend parfois nos questions. Il veut qu'on soit réel avec lui, avec nos doutes. Si David pouvait poser de telles questions à Dieu, alors pourquoi pas nous? C'est peut-être à ces moments-là qu'on grandisse le plus avec lui. Lorsqu'on voit que notre seul vrai repère, c'est ce Dieu éternel, ce Dieu qui a tant témoigné de son amour en envoyant Jésus à la croix, qui est ressuscité, qui vit en nous et qui nous amène à marcher avec lui. Je pense que nous allons avoir un petit moment dans le recueillement, dans le silence. Et je vais chanter un cantique que vous connaissez peut-être très bien. Peut-être vous les chantez avec moi dans le refrain « Dieu ta fidélité ». J'aimerais qu'on prenne le temps justement pour laisser le Seigneur nous parler et nous aider aussi à l'écouter.
joie et ton pardon en abondance. Ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Yeah.